Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La France va-t-elle bientôt voir les premiers effets du confinement? Le pays a passé ce week-end la barre des 40 000 morts à cause du Covid-19. Les premières mesures prises ont permis d'avoir une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie. C'est ce que disait hier le ministre de la Santé. Dans ce journal, nous irons à Toulouse où un hôpital de campagne doit être déployé aujourd'hui. Le Covid-19 et ses remparts, ce sera le premier chantier de Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président élu des États-Unis veut aussi réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Dans cette édition, son architecte Laurence Toubiana nous en donnera les conditions. Et puis, décryptage de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022. Le chef de file de la France Insoumise l'a confirmé hier soir. Un hôpital mobile sera donc installé cet après-midi en Occitanie par le SAMU du CHU de Toulouse. L'idée est de soulager l'établissement hospitalier qui accueille des patients atteints du Covid-19. Ils sont de plus en plus nombreux dans la région. Stéphane Iglesis a pu joindre celui qui est à l'initiative de cet équipement innovant.
Monter un hôpital de campagne en 20 minutes chrono, c'est ce que peut faire dès aujourd'hui le SAMU du CHU de Toulouse. Vincent Boone, directeur du SAMU 31, en a eu l'idée lors des attentats de Barcelone en 2017. Cet équipement mobile est d'ailleurs financé en grande partie par l'Union européenne pour se déployer en zone frontalière près des Pyrénées. Vincent Boone, directeur du SAMU 31.
Le camion se transforme. Vous avez vu les films Transformers là ? Dans ce qui est vraiment impressionnant, ce qui est photogénique, ce qu'il faut voir, c'est le déploiement de l'hôpital. En 20 minutes, c'est l'unité mobile polyvalente Europe-Occitanie. En fait, on l'appelle nous l'hôpital mobile ou le shelter. Au départ, c'est un module qui était fait pour la médecine de catastrophe, pour faire un hôpital de campagne en cas d'attentat. L'objectif initial, c'était l'autonomie et la rapidité de déploiement.
Et le papa de ce camion hôpital est encore très ému de son nouveau-né, Vincent Boone.
C'est un concentré de technologie absolue, il est entièrement équipé, autonome, il a tout le matériel avec lui, il peut... C'est comme une réanimation, mais dépliable. C'est pas une tente. C'est un module en dur. C'est un module issu d'une technologie militaire. Il peut résister à 2 mètres de neige sur le toit. Il est climatisé, il est anti-radiation.
Dès cet après-midi, les premiers patients Covid-19 seront accueillis dans cet hôpital mobile qui dispose de 18 places de réanimation.
C'était Stéphane Iglesis depuis Toulouse. Alors que le seuil des 40 000 morts liés au SARS-CoV-2 en France a été dépassé ce week-end, il y a une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie, d'après Olivier Véran. Mais le ministre de la Santé estime néanmoins qu'il est encore trop tôt pour voir les effets du reconfinement de ces 10 derniers jours et savoir surtout s'il sera levé à Noël. Lutter contre le Covid-19, c'est la première chose que fera Joe Biden ce lundi, quelques heures après les résultats de la présidentielle aux États-Unis qui ont été donnés samedi par de grands médias. Le président élu mettra en place donc aujourd'hui une cellule de crise sur le Covid-19. Ce groupe de travail réunira des scientifiques et des experts chargés d'élaborer un plan à mettre en œuvre dès la prise de fonction de Joe Biden en janvier prochain. Et dans les 100 premiers jours de son mandat, Joe Biden a également l'intention de faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Que peut-on attendre de cette promesse? Sarah Ders a sollicité Laurence Toubiana, l'architecte de l'accord de Paris, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat. Joe Biden peut, selon elle, compter sur l'opinion aux États-Unis. Encore faut-il qu'il soit force de proposition.
Ce retour doit s'accompagner de propositions des États-Unis, de politiques. Il a annoncé donc vouloir se mettre en phase avec tous les pays qui veulent arriver à zéro émission nette en 2050. Joe Biden devra développer dans l'année 2021 pour arriver à temps d'une certaine façon à Glasgow en novembre 2021 ou un peu avant. Mais il y aura beaucoup d'autres choses par ailleurs que Joe Biden peut faire, non seulement sur le plan intérieur, domestique. Et Biden profite d'un contexte où l'évolution par exemple des énergies renouvelables a été très importante. En 2019, par exemple, les États-Unis ont produit plus d'énergie renouvelable que d'énergie à base de charbon, d'électricité à base de charbon, pardon. Donc le charbon est entré en crise sous Trump beaucoup plus que ce n'avait été le cas sous Obama. Il faut aussi se rappeler qu'il y a un fort mouvement des villes, des États, des entreprises, de la communauté financière américaine, des universités, etc., qui se sont engagés dans des actions sur le climat contre l'administration de Donald Trump. Donc il peut compter sur ce mouvement-là, sur ces choses qui sont en train de passer dans l'économie, pour accélérer le mouvement malgré les difficultés. difficultés qu'il va rencontrer à cause peut-être hein, d'une minorité au Sénat.
C'était Laurence Toubiana pour France Culture. La chef de l'opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaya, en appelle à Joe Biden pour soutenir les opposants de son pays. Elle espère d'ailleurs rencontrer le nouveau président des États-Unis, alors qu'hier en Biélorussie, plus de 800 personnes ont été arrêtées. Elle manifestait encore contre la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. C'était en août dernier. Jean-Luc Mélenchon se déclare candidat à la présidentielle de 2022 en France. C'était attendu et c'était hier soir sur TF1. Le chef des Insoumis pose malgré tout une condition, réunir 150 000 signatures de tous horizons pour une investiture populaire, dit-il. La France Insoumise a officiellement 600 000 adhérents aujourd'hui. Il y a donc peu de suspense sur cette candidature, nous y reviendrons. Mais d'abord Stéphane Robert, cette déclaration est assez précoce.
Jean-Luc Mélenchon a hésité avant d'officialiser cette candidature à cause de l'épidémie de Covid-19, mais il est semble-t-il arrivé à cette conclusion que si l'épidémie doit durer, il n'y a pas et il n'y aura pas de bon moment pour se déclarer. Il se lance donc, et encore une fois très tôt dans la course. Pour la présidentielle de 2017, il avait annoncé sa candidature en février 2016, un peu plus d'un an auparavant. Cette fois, nous sommes à un an et demi de l'échéance. À 69 ans, Jean-Luc Mélenchon se prépare pour une troisième campagne consécutive. Avec l'espoir de renouveler la performance de 2017, il était arrivé quatrième, mais avec presque 20% des suffrages, il avait, comme François Fillon, frôlé la qualification pour le second tour. Quatre ans plus tard, cependant, son image dans l'opinion a terni. L'épisode des perquisitions au siège de la France Insoumise en octobre 2018 a laissé des traces. L'emportement avec lequel il avait clamé « La République, c'est moi » a renvoyé l'image d'un personnage mégalomane qui a du mal à maîtriser ses nerfs. Malgré ça, il estime encore une fois être le mieux placé à gauche, ce que semble d'ailleurs accréditer une enquête IFOP réalisée en octobre qui le place au-delà des 10% d'intention de vote. Pour tenter d'asseoir sa légitimité, il lance une procédure de parrainage auprès des Français afin de recueillir 150 000 signatures. C'est uniquement s'il les obtient, a-t-il dit hier soir, qu'il sera officiellement candidat. Ça paraît peu comparé aux 7 millions de voix du premier tour de la présidentielle en 2017. Et le seuil paraît d'autant moins difficile à atteindre qu'il n'a fixé aucun calendrier, aucune échéance pour obtenir ses soutiens.
Stéphane Robert, la Société Générale prévoit de supprimer entre 650 et 700 postes en France. Pas de départ contraint, promet la direction aux syndicats. Elle organise des comités sociaux et économiques toute cette semaine au sein du groupe pour évoquer ce plan. Cela s'inscrit dans le cadre de restructuration dans plusieurs services, c'est ce que précise la CFDT de la Société Générale. Partons enfin en Corée du Sud, où 14 livreurs sont morts depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les mesures de distanciation physique ont entraîné en fait la hausse des livraisons et donc une hausse de leur charge de travail, mort d'épuisement. Le président sud-coréen Moon Jae-in demande au gouvernement de se pencher sur les conditions de travail des livreurs. Mais l'on sait depuis longtemps que ces travailleurs, souvent indépendants, sont dans une situation extrêmement précaire, Nicolas Roca.
Ils sont nombreux chaque jour en scooter ou au volant d'un camion à affronter le trafic très dense de la capitale coréenne. Leur travail a été vital pour le pays dans la lutte contre l'épidémie car les livraisons ont explosé. Lu Hanu a 27 ans, il livre des repas et comme la majorité de ses collègues, il est travailleur indépendant.
Je travaille de 11h du matin à 11h du soir tous les jours. Quand les restrictions sanitaires étaient plus strictes, j'avais énormément de travail, mais maintenant la situation s'est un peu améliorée.
Gilets jaunes et crocs aux pieds, Hanyu repart déposer sa commande. Pour lui comme pour les autres, la course à la vitesse est la règle, car les revenus n'ont pas évolué. Ko Kyu-yan, 44 ans, responsable d'un syndicat de livreurs indépendants.
Je suis payé un peu plus de 2 euros par livraison et c'est le même prix depuis 10 ans. Normalement, je ne devrais en faire que 2 par heure, mais si je n'en fais pas 5, je ne gagne pas ma vie. Cela me pousse donc à aller plus vite. Le nombre d'incidents de la route a baissé en Corée, mais le nombre d'incidents de deux roues a augmenté.
Ko Kyu-yan s'estime heureux de livrer de la nourriture. Payé entre 60 centimes à 1 euro par course, les livreurs du commerce de biens sur Internet sont les plus précaires. Les récents décès de 14 d'entre eux ont créé une vague de sympathie. Le message « ce n'est pas grave d'être en retard » est apparu sur les réseaux sociaux coréens, comme sur les fenêtres de quelques immeubles.
Nicolas Roca depuis Séoul pour France Culture. C'est un temps automnal qui nous attend ce lundi en France métropolitaine avec des brouillards matinaux, de la grisaille et de rares éclaircies. Quelques pluies et orages arrivent par l'ouest. Ce matin, il fait 7 degrés à Strasbourg, 11 degrés à Lille et Paris, 13 à Bordeaux, 17 degrés à Marseille et sur la Corse.